on ne peut pas dévoiler l'identité d'un agent qui appartient aux forces spéciales. Il est normal qu'un État protège un certain nombre de données qui sont nécessaires à des activités, notamment des activités de défense extérieure et des activités militaires.
J'ai été convoquée très officiellement pour compromission du secret de la défense nationale. J'ai été interrogée par deux personnes, j'ai été convoquée en audition libre, ce qui m'a permis de me faire assister d'une avocate. Ça a duré moins d'une heure parce que j'ai décidé de répondre à aucune question. Je rappelle que nos confrères du média Disclose, Geoffrey Livolsi, Mathias Destal et de Radio France, Benoît Colomba, ont aussi été convoqués par la DGSI il y a deux semaines. Et ce soir, c'est le journaliste Michel Despratz qui a appris sa convocation. Donc si on fait le compte, à notre connaissance et à notre connaissance seulement, 8 journalistes convoqués, interrogés par la police en 4 mois, ça voudrait dire qu'il y a des sujets sur lesquels les journalistes n'ont pas le droit d'enquêter.
Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur et je ne suis pas à la DGSI. Ceci étant, vous avez raison, ça fait beaucoup.
Il y a une dizaine de jours, on apprenait que 2 journalistes du site d'investigation Disclose et 1 journaliste de Radio France avaient été convoqués par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, dans le cadre de leur enquête sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Depuis, d'autres journalistes ont été entendus de la même manière et sur le même sujet, provoquant déjà une réaction au sein de la profession, inquiète pour sa liberté. Mais mercredi, le journal Le Monde a annoncé que sa grande reporter Ariane Chemin allait à son tour être entendu le 29 mai prochain dans le cadre cette fois de son enquête sur Alexandre Benalla. En tout, 6 journalistes ont été convoqués ces dernières semaines par la DGSI, comme Valentino Berti de Quotidien, qu'on entendait à l'instant. 2 autres le seront la semaine prochaine, ainsi que le président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, en l'occurrence pour avoir révélé l'identité d'un agent des forces spéciales. Alors est-ce que cette procédure est normale, comme le rappelait la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye au micro d'Europe 1 jeudi, ou bien est-ce que ça fait beaucoup pour reprendre les termes de Nathalie Loiseau sur France Inter le même jour. Est-ce qu'on doit, à l'instar de sociétés de rédaction de plusieurs médias, s'inquiéter de la multiplication de ces convocations ? Le secret défense s'oppose-t-il au droit à l'information ? Les liaisons dangereuses entre la presse et le pouvoir, acte 2, c'est le sujet de la Fabrique ce matin avec nos 2 invités. Benoît Colomba, bonjour.
Bonjour.
On l'a entendu, vous êtes journaliste à la cellule Investigation de Radio France, bienvenue à vous. Et Luc Brunner, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Monde. Alors, 8 journalistes convoqués par la DGSI ces dernières semaines et en peu de temps, est-ce que c'est beaucoup, Luc Brunner ?
C'est du jamais vu dans un délai aussi court d'avoir autant de convocations de journalistes de médias différents et de journalistes qui ont fait leur travail, c'est-à-dire qui ont, dans des titres différents, cherché à raconter les dessous des affaires de l'État. Un travail extrêmement intéressant sur les ventes d'armes, notamment en Arabie Saoudite. Et pour ce qui concerne Le Monde, le fait de travailler sur les affaires Alexandre Benalla et notamment sur les liens dans les entourages Benalla avec des hommes d'affaires, notamment des hommes d'affaires russes. Donc des journalistes qui font leur travail, et le travail d'investigation, d'aller chercher de l'information sensible et qui se retrouvent convoqués par des services de renseignement, c'est la DGSI, c'est-à-dire qu'on est sur des services de renseignement policiers, avec l'idée probablement à la fois d'essayer de comprendre quelles sont nos sources, ce qu'aucun d'entre nous évidemment ne dira, et puis d'autre part probablement de faire passer un message sur l'idée qu'il ne faudrait pas travailler sur ces matières-là. Donc oui, c'est du jamais vu et c'est un moment qui est assez grave.
Benoît Colomba, vous avez, vous, été convoqué par la DGSI, donc je le rappelais dans le cadre de cette enquête que vous avez menée à plusieurs, et à la cellule investigation de Radio France notamment. Est-ce qu'on vous a demandé, comme le disait à l'instant Luc Brunner, quelles étaient vos sources, pourquoi vous travaillez ? Est-ce que vous avez senti une forme d'intimidation ?
L'intention, elle était claire, tenter de connaître nos sources. Et derrière, il y a un autre message, un message d'intimidation, lancé à nous, mais aussi à tous les journalistes qui travaillent sur des sujets sensibles, et même au-delà. On parle là de l'affaire Benalla, des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, dans la guerre au Yémen. On parle là de sujets d'intérêt public. C'est l'intérêt général dont il est question. Et là, il y a 2 logiques qui se télescope, la logique de la révélation et la logique du secret. Le problème, c'est que, avec la multiplication l'organisation de ces convocations, pour moi c'est très inquiétant, on voit là qu'on est dans des procédures qui sont hors du droit de la presse stricto sensu. Donc nous sommes évidemment là en tant que journalistes pour les informations que nous avons publiées, mais le cadre procédural, c'est par exemple pour l'enquête sur les armes françaises au Yémen, une enquête qui est diligentée par le parquet, donc le pouvoir politique, le parquet antiterroriste.
Mais vous êtes là en tant que journaliste ou en tant que simple citoyen ?
Ben, si vous voulez, nous évidemment, on oppose le secret des sources, on ne répond pas sur notre travail. C'est pas une procédure de presse, si vous voulez. Et c'est bien là le problème. On a vu par le passé, sur des affaires également très sensibles, l'affaire par exemple Kadhafi-Sarkozy, des soupçons de financement, ou l'affaire Bettencourt, on a vu comme ça des plaintes qui avaient pu être déposées pour violation de l'intimité, pour faux, usage de faux, qui sont des manières finalement de contourner directement le droit de la presse. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, bien évidemment. On peut déposer des plaintes pour diffamation. Il peut y avoir un débat public pour que l'on rende compte de ce qu'on a publié. Mais là, on est dans un autre cadre. Et c'est ça qui est inquiétant.
C'est en dehors du cadre légal de la presse,
Oui, on n'est pas dans... Il y a une loi qui est la loi de 1881 qui organise une partie du fonctionnement des médias en France et avec des règles sur la diffamation, sur des aspects juridiques qui sont importants et qui permettent aussi un acquis démocratique majeur qui est la protection des sources. Sans source d'information, il n'y a pas de journalisme de qualité. Sans source d'information, on se contenterait de donner les résultats des matchs de Ligue 1 en football ou des résultats communiqués par des entreprises ou simplement la communication gouvernementale. Le fait d'avoir des sources, ça nous permet de révéler ce que vous disiez sur des ventes d'armes effectuées par la France pour des États qui posent des questions démocratiques. Ça nous permet de révéler des projets gouvernementaux, par exemple, sur lesquels ils ne souhaiteraient pas que l'information circule. Donc, la source, c'est le cœur du travail journalistique. Sans source d'information, on ne peut pas faire le travail de journaliste. Et donc, à travers ces actions, qui encore une fois nous paraissent vraiment sérieuses et graves, je pense qu'il y a deux messages. Il y a un message qui s'adresse aux journalistes d'investigation, sous-entendu, on va vous rendre le travail plus difficile. Et il y a un message qui s'adresse aux sources en disant, vous prenez des risques en parlant aux journalistes. Et c'est pour ça que moi, je suis frappé par la réaction très large de tous les médias français, y compris des médias internationaux. Il y a un article du Washington Post sur la convocation d'Ariane Chemin qui a été publié hier. Réaction qui est commune et qui n'est pas une réaction corporative. C'est une réaction assez rare. Le métier des professions de journaliste est, comme beaucoup de professions, traversé par plein de courants, d'opinions, de concurrence. Là, c'est unanime pour dire nous sommes dans un moment grave parce que derrière ces actions, ce sont les sources qui sont visées et donc c'est la capacité des journalistes en France à bien faire leur travail.
Lisa Colomba.
Oui, parce que quand j'ai entendu des déclarations de porte-parole du gouvernement ou des représentants de l'Élysée disant que les journalistes n'étaient pas au-dessus des lois, mais attention, si je renverse une vieille dame dans la rue ou si je tue quelqu'un, bien évidemment, je vais être un justiciable comme les autres. Là, on part de la fonction de journaliste qui a un rôle social particulier, avec aussi une protection particulière. Alors, je le disais, on a le secret des sources. Sans source, il n'y a pas d'information et sans information, il n'y a pas de journalisme. Donc, à un moment, on va aller sur un terrain qui est légitime pour révéler des informations utiles au débat citoyen. Donc, c'est ça dont il est question. Et donc, il y a effectivement la loi de 1881. Il y a une loi sur le secret des sources qui date de janvier 2010.
C'est assez récent. Hein.
Qui est, oui, et qui pourrait être aussi largement améliorable, parce que ce secret des sources, c'est un socle pour nous. Mais dans certains cas, on parle d'intérêt prépondérant d'intérêt public. En cas d'impératif prépondérant d'intérêt public, ce secret pourrait, dit la loi, éventuellement être contourné, même si le journaliste peut toujours opposer ce secret. On voit bien quand même qu'on est dans une zone un peu grise, mais je veux dire que c'est le socle de notre fonctionnement démocratique. Et si on commence à l'attaquer, ça va vraiment devenir problématique.
Vous dites source l'un et l'autre, vous parlez d'intérêt public et dans votre éditorial Luc Bronner du Monde, vous parliez aussi, vous défendiez cette notion d'intérêt public. Mais effectivement, le gouvernement, et dans la bouche de sa porte-parole Sibeth Ndiaye, parle moins de secret des sources et de protection des sources que de fuite. Elle dit effectivement, les journalistes sont des justiciables comme les autres. Il y a eu une note classée secret défense qui a fuité. C'est normal qu'un État veuille connaître la cause de ces fuites pour éviter, là je la cite, une éventuelle manipulation étrangère. Qu'est-ce que vous répondez ? Donc, source versus fuite.
Là, on est clairement sur des éléments de langage. C'est-à-dire que c'est une façon pour une porte-parole, elle fait son travail, au fond, d'essayer de faire atterrir une situation qui leur échappe. Quand Disclose Radio France révèle cette note sur les armes vendues par la France à des États étrangers, quand nous travaillons sur les affaires Benalla, et quand à un moment donné, on évoque l'ancien statut d'un militaire qui a été comptable dans dans les forces spéciales, parce que c'est de ça dont il s'agit en l'occurrence, on est très prudent, on fait très attention de ne surtout pas révéler des secrets qui mettraient en danger des militaires. On a parfois des informations de ce type-là, on ne les publie pas. On fait très attention de ne pas mettre en danger la souveraineté nationale. On est très vigilant là-dessus, donc on est responsable. Et ce qui veut dire que il y a une part de l'argumentation qui est une argumentation de protection et de volonté d'empêcher que des journalistes travaillent sérieusement sur ces sujets-là. Mais on est vraiment responsable. On fait vraiment très attention d'être dans des informations qui ne mettent en aucun cas en danger aucun militaire d'aucune façon.
Je le disais, c'est deux logiques qui se télescopent. Que l'État, bien évidemment, protège certaines choses, qu'il y a un secret, bien évidemment que c'est acceptable du point de vue citoyen. Mais là, on parle de graves dysfonctionnements. Donc, on fait notre travail de journaliste. Et quand même, il faut bien noter que là, il y a une certaine accélération, finalement, dans cette traque aux sources, cette recherche effrénée des sources. On a pu voir, il y a quelque temps, des ministères, je pense à Muriel Pénicaud ou l'ancienne ministre de la Culture, déposer des plaintes suite à des informations qui avaient été publiées dans Libération, dans Le Monde, sur un projet de réforme du Code du Travail, sur un projet de réforme de l'audiovisuel public. Donc, déjà, ça commence à poser question. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer par rapport à cette question du secret pour parler strictement des ventes d'armes. On a appris récemment que le Conseil d'État avait été saisi pour encore renforcer le secret, c'est-à-dire qu'il y a trois échelons de secret, confidentiel défense, secret défense et très secret défense. Eh bien, l'exécutif travaille actuellement sur un resserrement de ce secret. Donc, on voit que ça devient très compliqué. Et puis, deuxièmement, un accord a été passé, un décret a été publié en mars dernier entre la France et l'Arabie Saoudite pour mettre en place des accords de confidentialité entre la France et l'Arabie Saoudite, touchant justement à des informations liées au secret défense. Et un accord qui envisage même une collaboration entre ces pays en cas, comme c'est le cas par exemple, de compromission du secret de la défense nationale. Donc ça, c'est des sujets qui doivent être débattus démocratiquement.
Pour revenir juste à l'affaire Benalla qui occupe plutôt le journal Le Monde et qui justifie la convocation de votre grande reporter Ariane Chemin, Luc Brunner, il se trouve que le président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, est convoqué lui aussi la semaine prochaine pour avoir révélé l'identité d'un agent des forces spéciales. Alors vous dites que vous faites très attention, que vous êtes absolument responsable, mais vous êtes quand même sous le coup de l'article 413-14 du Code pénal qui prévoit que la révélation ou la divulgation par quelque moyen que ce soit de toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à l'identification d'une personne membre des unités des forces spéciales est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est sur cette base-là et sur ce motif-là que vos journalistes sont convoqués?
Oui, c'est la même histoire, hein. C'est l'article d'Ariane Chemin. Pour le coup, il y a un point sur lequel nos juristes travaillent, c'est-à-dire que dans ces convocations, visiblement, le parquet, la DGSI jouent deux droits en parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, c'est le droit pénal que vous venez de signaler avec la convocation d'Ariane Chemin sur les faits. Et de l'autre, curieusement, il convoque aussi le directeur de la publication, qui est Louis Dreyfus, comme s'il se passe toujours en droit de la presse. Donc là, il y a un point juridique qui nous intrigue un peu. Il faut revenir au cœur de cette affaire. Pourquoi avons-nous parlé de cet ancien agent des forces spéciales, encore une fois, qui occupait des fonctions plutôt administratives? Nous en avons parlé parce que c'était un proche d'Alexandre Benalla et que, comme Alexandre Benalla, il s'est trouvé en liaison d'affaires avec un homme d'affaires russe, alors même que Alexandre Benalla occupait des fonctions à l'Élysée. Ça nous paraît être un sujet d'intérêt public que de savoir comment des membres de l'entourage du président de la République, président de la République qui a choisi de s'entourer de plusieurs personnes qui viennent des forces spéciales, on l'a déjà évoqué dans Le Monde, je pense que c'est une question d'intérêt public et une question de sécurité nationale beaucoup plus importante que de savoir comment travaille Ariane Chemin. Et moi, ça me frappe de voir aujourd'hui la DGSI travailler sur les sources des journalistes et ne pas forcément travailler sur la façon dont des hommes d'affaires russes proches de Poutine ont des contacts, des relations commerciales, on va dire ça comme ça, avec des gens qui ont été au cabinet du président de la République. Voilà, je pense que sur ces sujets, on est très clairement dans l'intérêt public.
Benoît Colomba. Des confrères avaient également été poursuivis par le passé pour avoir écrit un livre qui s'appelait « L'espion du président », dans lequel il révélait des noms d'agents de la DCRI, Christophe Labbé, Olivier Récassens qui était au point, et Didier Assou du Canard Enchaîné, où là aussi, ils faisaient leur travail de journaliste.
Alors, vous parlez d'accélération précisément, et là, justement, vous évoquez le mot espionnage, hein, puisque l'espion, en l'occurrence l'espion de l'Élysée, ne portait pas sur une affaire américaine, mais il se trouve que cette semaine, on a aussi appris un changement de condamnation pour Julian Assange, qui est désormais poursuivi pour espionnage et non plus seulement piratage. Le New York Times dit que le fait d'accuser le travail journalistique d'être de l'espionnage bat en brèche le premier amendement de la Constitution américaine. Nous n'avons pas la même Constitution, mais est-ce que vous feriez, Luc Bronner, un rapprochement entre l'accélération de ces procédures dont parlait à l'instant Benoît Colomba et ce qui est en train de se passer malgré tout aux États-Unis. Si je vais très très loin, est-ce qu'il y a une forme de criminalisation du journalisme ?
Alors, j'emploierai pas encore le mot de criminalisation du journalisme. Et je suis prudent sur les comparaisons avec les États-Unis. Ce qui m'inquiète, c'est que on passe des cliquets successifs et que, à force de convocations de journalistes, en fait, je crains la banalisation et je crains que on en soit au stade des convocations. Aujourd'hui, sous forme d'audition libre, c'est-à-dire que les journalistes peuvent repartir et évidemment avoir comme en garde à vue, cela dit, le droit au silence. Ce qui est embêtant, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois que le pouvoir a habitué l'opinion à la convocation de journalistes, l'étape d'après, c'est quoi ? L'étape d'après, c'est peut-être justement l'utilisation d'un droit encore plus important et avec plus d'effets, qui est le recours à ce genre d'incrimination-là sur l'espionnage. Donc ma crainte, elle est plutôt dans les effets cliqués. On sait que ça existe, le terrorisme depuis 2001, tout le droit construit sur le terrorisme a contaminé l'ensemble du droit avec des effets sur les procédures pénales. Donc, la crainte, elle n'est pas forcément immédiate. La crainte, elle est pour moi dans quelques années et elle est encore plus forte dans l'hypothèse un jour où des gens prendraient le pouvoir dans ce pays avec une volonté d'intervention sur les médias encore plus forte.
Benoît Colomba, on est dans un état de droit, mais il faut rester vigilant.
Oui, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a une forme de criminalisation du journalisme.
Ici aussi
dans
en
la
France.
Mesure où les procédures se multiplient, je parlais d'intimidation. Et c'est vrai que quand on voit des journalistes qui, aujourd'hui, essayent de faire leur travail, il y a des exemples qui peut-être sont un peu moins spectaculaires. On a vu par exemple des journalistes dans la presse locale qui se sont retrouvés convoqués par la gendarmerie parce qu'ils avaient couvert un décrochage du portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie. Bon, finalement, ils ont été convoqués comme témoins et pas comme suspects. On voit, ça a été documenté par Reporters sans frontières et par notre confrère David Dufresne, le nombre très élevé de journalistes qui s'affichent comme journalistes qui couvrent les manifestations de Gilets jaunes avec un nombre très important de violences policières. David Dufresne parlait du chiffre de 62, Reporters sans frontières de 54, 120 incidents. Enfin voilà, on voit que le défenseur des droits s'en est ému, on voit que les Nations Unies également commencent à dire des choses là-dessus. Et c'est vrai que c'est difficile aussi de faire ce tableau-là sans aussi ne pas parler d'un rapport à la vérité quand même assez étonnant du pouvoir, parce que Emmanuel Macron lui-même, dans le cadre de l'affaire Benalla, quelques temps après que Le Monde ait révélé cette affaire, il avait dit que nous avons une presse aujourd'hui qui ne veut plus chercher la vérité. Mais en même temps, on a le même chef de l'État qui, dans l'affaire des ventes d'armes de la France au Yémen, dit qu'il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un client important de la France. Ben si, l'Arabie Saoudite est un client très important de la France en termes de licences, de contrats et de ventes. Ou quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit ici, à la pitié salpêtrière, on a attaqué un hôpital. Et en même temps, on a la loi sur les fake news, qui est une loi complètement, complètement inutile. Donc on a un peu l'impression, d'un côté, d'avoir cette forme de criminalisation du journalisme, et de l'autre, une espèce de mise en place d'un ministère de la vérité.
Luc Bronner.
Oui, je pense que Benoît Colomba l'a dit tout à l'heure, il faut, quand on refait l'histoire de ce quinquennat, ça a commencé par des plaintes déposées par des ministres sur des informations sorties, en l'occurrence par Libération et par Le Monde, sur des projets gouvernementaux, sur la réforme du travail et sur la réforme de l'audiovisuel public, qui sont des sujets importants. Premier réflexe des ministres, déposer plainte. Et là encore, pas tellement contre les journalistes, parce qu'on risque pas grand-chose. La cible, ce sont les sources pour empêcher que ça sorte. Il y a un deuxième événement qui est important dont on n'a pas parlé, c'est le début de l'application de la loi sur le secret des affaires. Là encore, nous, Le Monde, on a malheureusement été en première ligne, puisque le travail qu'on a fait, en l'occurrence aussi avec Radio France sur les implant files, ont été en partie limités parce que s'appliquait pour la première fois la loi sur les secrets des affaires. Troisième événement, c'est la tentative de perquisition de médias.
Et avec
la brigade criminelle.
Voilà. Et quatrième, la série de convocations devant la DGSI. Ça fait beaucoup, pour reprendre une formule utilisée par une ancienne ministre.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup à tous les deux, Luc Bronner. Merci beaucoup, Benoît Colomba. Bien sûr, nous suivrons ce dossier dans la fabrique médiatique. Merci.